Cardinal Nicolas Wiseman. Fabiola ou l'église des catacombes. Première partie. Chapitre 1er. Une maison chrétienne. Amis lecteurs, suivez-nous au milieu des rues de Rome pendant une après-midi du mois de septembre 302. Le soleil commence à décliner. Encore 2 heures et il disparaîtra à l'horizon. Le temps est nuageux et la chaleur est tombée car nous voyons les habitants de la ville sortir peu à peu de leur demeure et se diriger les uns vers les jardins de César, les autres vers ceux de Salluste pour faire leur promenade du soir et s'enquérir des nouvelles du jour. Mais l'endroit de la ville vers lequel nous guidons les pas du lecteur est la partie désignée sous le nom de Champ de Mars. Elle comprenait la grande plaine d'alluvion située entre les 7 collines de l'ancienne Rome et le Tibre. Avant la fin de la République, cette plaine, consacrée autrefois aux exercices gymnastiques et militaires, commença à se couvrir d'édifices publics. Pompée y érigea son théâtre, Agrippa le Panthéon et les bains voisins. Mais peu à peu, des habitations particulières s'y élevèrent quand les collines, regardez, à l'époque des premiers temps de l'Empire, comme la partie aristocratique de la ville, furent envahies par les édifices publics. Ainsi, le Palatin, après l'incendie de Néron, devint trop petit pour la résidence impériale et le grand cirque. L'Esquilin fut consacré au bain de Titus, bâti sur les ruines de la Maison d'Or. Caracalla éleva ses bains sur l'Aventin, et, à l'époque dont nous parlons, l'empereur Dioclétien faisait ériger ses thermes en prenant sur le Quirinal, non loin des jardins de Salluste, un espace qui aurait suffi à plusieurs habitations patriciennes. La partie du Champ de Mars vers laquelle nous dirigeons nos pas est si connue que nous pouvons la décrire aisément à quiconque possède une légère teinture de la topographie ancienne ou moderne de Rome. Sous la République, il y avait dans le Champ de Mars un large espace carré entouré de planches et divisé en parties égales où les comices ou tribuns du peuple apportaient leur vote. On l'appelait Septa ou Ovile parce qu'on lui trouvait une certaine ressemblance avec les bergeries mobiles dans lesquelles on parque les troupeaux. Cicéron, dans une de ses lettres à Atticus, décrit un plan proposé par Auguste pour transformer ce bâtiment primitif en une belle et solide construction. La Septa Julia, c'est ainsi que ce bâtiment fut nommé, contenait un magnifique portique de 1000 pieds de long sur 500 de large, soutenu par des colonnes et orné de peintures. Aujourd'hui encore, on peut voir ses ruines. Il occupait l'espace où s'élèvent actuellement les palais Doria et Verespi, le collège romain, l'église de Saint-Ignace et l'oratoire de la Caravite. La maison où nous introduisons le lecteur est située à l'est, du côté opposé à cet édifice. C'est dans son enceinte qu'on a érigé l'église de Saint-Marcel. Comme les demeures nobles de cette époque, elle occupe un grand espace de terrain et s'étend jusqu'au pied du mont Quirinal. Ses murailles sont nues, sans ornement, et percées çà et là de rares fenêtres. Au milieu de la muraille est une porte in antis, surmontée d'un tympan ou corniche triangulaire s'appuyant sur 2 demi-colonnes. Usant de notre pouvoir de créateur et de père, et de notre privilège d'ubiquité dans le monde de la fiction, nous franchirons le seuil de cette demeure comme des êtres invisibles, entraînant avec nous notre ami lecteur, notre ombre, comme auraient dit les anciens. En passant sous le portique et après avoir lu sur le dallage en mosaïque l'antique Salvé ou le souhait de bienvenue, nous nous trouvons dans l'atrium, la première cour de la maison, qui est entourée de colonnades. Au milieu du dallage de marbre, une onde pure et murmurante, apportée des montagnes de Tusculum par les aqueducs de Claude, s'élance en jet d'eau dans les airs pour retomber au fond d'un premier bassin de marbre rouge, sur les parois duquel ses flots limpides débordent, puis se répandent comme une rosée rafraîchissante sur les fleurs rares et brillantes qui l'entourent, avant d'atteindre un second bassin, plus spacieux que le premier. Sous le portique, des meubles précieux frappent nos regards. Voici des couches incrustées d'ivoire et d'argent, des tables de bois orientales soutenant des candélabres, des lampes et d'autres objets également en argent. puis des bus, des vases, des trépieds, des objets d'art délicatement ciselés. Les murailles sont couvertes de peintures d'une époque antérieure qui ont conservé le brillant de leur coloris et la fraîcheur de leur exécution. Elles alternent avec des statues dans leur niche, représentant, comme les peintures, des sujets ou des personnages tirés de la mythologie ou de l'histoire. Mais rien dans ces tableaux, dans ces statues, ne peut blesser l'œil le plus chaste et l'âme la plus pure. De loin en loin, une niche vide, une peinture recouverte d'un voile, indique que ce n'est pas le hasard seul qui a présidé à ce choix. En dehors des colonnades, la voûte s'arrête et laisse libre un espace carré appelé impluvium. Une tenture d'étoffe épaisse s'y déroule et garantit du soleil ou de la pluie. Le crépuscule artificiel, à l'aide duquel nous avons pu voir ce que nous décrivons, met mieux en relief les objets placés au-delà de la voûte. À travers une arcade opposée à celle par laquelle nous sommes entrés, nous apercevons une cour d'un style plus riche encore et pavée de marbres divers, ornée d'incrustations d'or. Le soleil du soir, filtrant à demi à travers le voile qui clôt l'ouverture dont nous venons de parler, ouverture fermée déjà par une épaisse vitre de talc, lapis specularis, éclaire d'un de ses plus doux rayons l'habitation que nous visitons et nous permet de voir que nous ne sommes pas dans un palais enchanté, mais bien dans une maison habitée. Devant une table, placée au-delà des colonnades de marbre phrygien, une noble matrone est assise. Elle n'a point dépassé le milieu de la vie, mais on voit sur ses traits harmonieux la trace de ses souffrances profondes qui vieillissent avant le temps. Il y a dans cette physionomie le mélange des souvenirs d'un passé douloureux tempéré par une impression plus douce qui, grâce à une influence toute puissante, a fondu ces deux ordres de sentiments dans la résignation de son cœur et la sérénité de sa physionomie. La simplicité des vêtements de cette noble matrone contraste avec le luxe qui l'environne. Ses cheveux, où courent déjà quelques fils d'argent, sont découverts et rattachés sans prétention. Sa robe, d'une seule couleur, n'est relevée par aucune broderie. La sévère monotonie de sa mise n'est modifiée que par le ruban de pourpre appelé segmentum que portent les veuves. On ne lui voit aucun de ses bijoux et des ornements précieux dont les dames romaines aiment à se parer. La seule parure que nous remarquons à son cou est une chaîne d'or à laquelle est suspendu un objet, sans doute soigneusement caché dans la partie supérieure de sa tunique. Elle est occupée à un travail qui, évidemment, n'est pas destiné à son usage personnel. Elle borde un morceau de drap d'or avec des ornements encore plus riches. De temps à autre, ses doigts agiles vont puiser, dans d'élégantes boîtes posées sur la table, tantôt une perle, tantôt une perle précieuse, dont elle enrichit son ouvrage. On peut soupçonner qu'elle emploie à un usage plus élevé les parures de sa jeunesse. À mesure que le temps s'écoule, les mains de la noble dame se ralentissent peu à peu, comme si une pensée secrète venait jeter je ne sais quel malaise dans son esprit, tout entier, en apparence, à la tâche qu'elle accomplit. Elle lève souvent les yeux vers la porte d'entrée, comme si elle épiait le bruit attendu de pas sur les dalles sonores, et, après un moment d'attente, elle paraît désappointée. Alors son regard interroge le soleil et la clepsydre placée près d'elle sur une console. Mais au moment où la préoccupation que dénote sa physionomie va faire place à une expression d'anxiété, un coup joyeux ébranle la porte. Sa figure s'illumine d'un radieux sourire pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs désirés.